Europe 1. Bienvenue et bonjour à vous, Jules Keppel.
Bonjour.
Et merci de votre présence. Votre éclairage nous sera très précieux ce matin pour appréhender la situation au Proche et Moyen-Orient. Vous êtes professeur des universités. Jules Keppel est l'auteur de Holocauste, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident chez Plon, avec un peu de recul suite à l'attaque iranienne ou à la riposte iranienne sur Israël, puisque l'Iran avait promis de se venger après le bombardement de son consulat à Damas. Qui, selon vous, Jules Keppel, est en position de force ce matin? Qui sort renforcé après ces dernières heures de très grandes tensions?
Ça a exposé la faiblesse des deux, d'une certaine manière, puisque après le 7 octobre, qui avait vu une attaque par le sol sur le territoire israélien et qui avait consacré que l'inviolabilité du sanctuaire d'Israël pour protéger les Juifs de pogroms, comme celui qui s'est passé le 7 octobre, avait été produite, là, on a eu une attaque, cette fois-ci, par le ciel sur le territoire israélien. Une attaque qui a été contrée, puisque 99% des missiles de croisière et drones ont été abattus, qui a soudé autour d'Israël une coalition qui ne ménageait pas ses critiques à Benjamin Netanyahou à cause des dizaines de milliers de victimes civiles à Gaza, mais qui néanmoins a marqué pour la première fois que l'Iran prenait le risque, sautait le pas, d'attaquer le territoire de l'État hébreu. Donc, d'une certaine manière, on a un État hébreu qui a été défendu par ses alliés, y compris par un certain nombre de pays arabes, ceux qui n'ont rien dit, ou la Jordanie qui a elle-même laissé intercepter des engins volants au-dessus de dans son espace aérien. Donc là, on a cette situation où, en même temps, aujourd'hui, on pense que le Premier ministre Netanyahou et son cabinet de guerre rêvent d'une vengeance. Je vais vous en dire un mot dans un instant. Mais pour ce qui est de l'Iran, à mon sens, l'Iran n'est pas du tout en forme. D'abord, le 7 octobre, moi j'avais pas cru ça au début, mais la date n'a pas du tout été décidée par les Iraniens, mais par Yahya Sinwar, qui a pris sur lui, alors qu'il est un mandataire de l'Iran d'une certaine manière, qui a pris sur lui d'attaquer le 7 octobre parce qu'il n'y avait plus de chars à la frontière. C'était l'occasion de faire le carnage qu'il a fait. Mais de ce fait, le Hezbollah et l'Iran ont été pris dans une logique d'escalade militaire qu'ils ne maîtrisaient pas complètement.
Nous allons en parler. Je reviens un instant, Gilles Keppel, sur Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'il peut chercher ou est-ce qu'il va chercher à tirer un avantage militaire d'une telle situation, avant de parler de la riposte, en ciblant l'autre grand ennemi de la région? Vous venez d'en parler justement, le Hezbollah libanais. Tout le monde s'interroge ce matin sur la réaction de la riposte. Est-ce qu'elle peut être ciblée vis-à-vis justement du Hezbollah?
Ça devrait être effectivement la cible idéale pour Netanyahou, puisque Joe Biden, après avoir fourni l'assistance militaire américaine, alors on n'a pas idée aujourd'hui de la proportion, combien d'engins ont été abattus par les Américains, voire par les Anglais, même les Français, les Jordaniens, les Américains, etc. Et les Israéliens, bien sûr. Mais Joe Biden, après cela, a dit, bon, we did the job, on a fait le travail, mais pas d'escalade et interdiction de taper sur le régime, sur le territoire iranien, puisque ça déclencherait un processus très compliqué pour tout le monde et aussi pour le candidat Joe Biden à la présidence des États-Unis.
Donc si on décrypte, voilà, tout indique une frappe sur...
Il reste, voilà, parce qu'il faut bien voir aussi quand même que Hamas ne représente plus aujourd'hui un véritable danger existentiel pour Israël comme il le faisait autrefois. Et bien sûr, il y a eu les innombrables victimes civiles qui ont profondément écorné l'image d'Israël à l'étranger. Mais en termes militaires, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un nombre réduit de combattants des brigades Azed Din al-Qassam, beaucoup ont été tués, qui sont avec Yahya Sinwar, sous Rafah. Et donc ça, c'est un premier.
L'autre donc, élément, le grand ennemi, voilà, reste le Hezbollah.
Celui, le mandataire le plus important, étant entendu que Téhéran a vu des généraux se faire tuer, le plus important général des Pasdaran a été tué par une frappe israélienne, qui était le motif ou le prétexte au déferlement des drones et autres missiles lancés par Téhéran la nuit de samedi à dimanche. Donc c'est le Hezbollah qui apparaît aujourd'hui comme la cible par excellence. Il n'a pas été explicitement interdit par les États-Unis. Et au Liban, il est aussi en position d'assez grande faiblesse. Les gens en ont marre.
Frappe ciblée sur voilà, le Hezbollah.
C'est effectivement le scénario sur lequel la plupart des experts travaillent, sans envoyer de troupes au sol, puisque les souvenirs de la guerre dite des 33 jours de 2006, où les Israéliens finalement avaient été bloqués dans leur progression au sol au Liban, est encore dans toutes les mémoires. Alors que les frappes qui ont eu lieu sur les chefs du Hezbollah, militaires, etc., faites par les Israéliens récemment, ont été d'une très grande efficacité. Donc c'est un peu ça qu'on imagine.
Encore un mot quand même sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Vous venez d'évoquer en début d'entretien une inviolabilité d'Israël qui serait tombée par le sol, le 7 octobre, par les airs, ces derniers temps. Est-ce qu'il y a aussi une rupture historique? Pour la première fois, quand même, Israël et l'Iran se sont fait face à face par une attaque directe.
Ça ne s'était jamais produit et c'est probablement aussi le dérapage, entre guillemets, de Yahya Sinwar, qui a tiré les Iraniens dans cet engrenage. Les Iraniens avaient jusqu'alors utilisé les Houthis pour marquer leur solidarité avec le Hamas. Les Houthis, c'est un investissement assez faible, avec un retour sur investissement énorme, puisqu'ils ont quasiment empêché tout le trafic commercial de la mer Rouge et du canal de Suez. L'Égypte a vu ses revenus fondre, etc. Mais les Chinois, alliés de l'Iran et intermédiaires de l'Iran dans la région, sont pas du tout contents, parce que l'essentiel de ces bateaux transporte les marchandises chinoises qui vont fournir ce stylo, costume, vos lunettes, enfin tout ce qui est dans notre environnement. Et la Chine, qui connaît un ralentissement économique significatif aujourd'hui, effondrement de la bulle immobilière, la ruine de millions et millions de Chinois, n'est pas du tout contente de cette situation.
Donc ce qui expliquerait, parce que là vous nous donnez une clé à la fois économique et donc militaire, que l'Iran ait décidé d'attaquer directement Israël, sans plus passer
Les Houthis continuent à faire leur business, si j'ose dire, mais effectivement, l'Iran était contrainte d'agir, parce que sinon, elle apparaissait comme ayant perdu ne pas réagir.
Comment elle apparaît aujourd'hui alors qu'aucun de ces missiles, de ces drones n'a atteint
la cible? C'est bien leur problème. Il y a eu bien sûr des manifestations d'enthousiasme spontané, entre guillemets, à Téhéran, mais c'était toujours les mêmes. On a vu des séances, ils ont filmé les séances du Parlement où ils criaient « Mar Gbar Israël », c'est-à-dire « Mort à Israël ». Mais ce Parlement n'a jamais été élu aussi peu de votants depuis la République islamique, c'est très très faible, et on voit que c'est quand même un régime qui est aujourd'hui rétréci dans sa base sociale, autour des gardiens de la Révolution, qui sont originaires principalement de zones périphériques et qui expliquent la violence, par exemple, qui a été exercée contre les femmes éduquées du monde urbain, à l'occasion de Mahsa Amini.
C'est important ce que vous dites, Gilles Kepel. Hier, nous étions sur Europe 1 avec une jeune femme iranienne, Mona Jafarian, la présidente de l'association Femmes Azadi, et qui nous a dit « Attention, attention, ce que vous voyez, ces scènes de liesse, ne sont pas du tout généralisées. » Elle soulignait la fragilité du régime iranien en ce moment. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est ce qu'on veut voir de la fragilité du régime ?
Il y a quand même un changement. Le système de la République islamique était quand même basé sur l'omniprésence des mollahs. Et les religieux sont présents dans toutes les couches de la société. Y compris dans les classes supérieures, il y a eu des... Là, les pasdaran, ce sont des ruffians, si vous voulez, qui sont là avec des tricks, avec des nervis. Et le régime iranien a tenu aussi, parce que vous avez dans le chiisme ce qu'on appelle le batin et le zahir, c'est-à-dire ce qui est caché et ce qui est public. Tout est interdit en public, mais dans le domicile et dans le caché, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez.
Qui a permis de tenir un équilibre. Mais dans la région autour de l'Iran, il n'y a pas que des amis. Loin de là, tous les pays sunnis, toutes les pétromonarchies n'attendent, me semble-t-il, qu'une seule chose. Est-ce que vous le confirmez? Justement, cet affaiblissement,
oui,
ce
bien sûr.
Du régime.
Et je crois qu'ils le perçoivent. Alors évidemment, la République islamique blessée peut se défendre en utilisant des situations irrationnelles.
Elle en a encore les moyens aujourd'hui, Gilles Kepel. On a l'impression que tout a été utilisé là ces dernières heures.
Il y a une telle fragilité sécuritaires dans des pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et autres, qui sont assis sur des tas d'or, si j'ose dire, des fortunes de la rente pétrolière. Et dans le passé, précisément, l'Iran avait utilisé aussi bien les milices chiites d'Irak, qui sont également ses mandataires ou ses affidés, que les Houthis, pour envoyer des drones et des missiles sur les Saoudiens pour les faire chanter et donc les prendre en otage d'une certaine manière. Donc ça, c'est encore possible. C'est pourquoi on a vu que les États sunnites soit n'ont rien dit oui. en espérant que l'Iran en prendrait le plus possible pour son grade, soit pour les Jordaniens, sont carrément allés jusqu'à non seulement laisser leur espace aérien ouvert, mais peut-être même eux-mêmes à détruire des drones.
Des pays européens, enfin, la France également est intervenue, et on a entendu hier le ministre des Affaires étrangères extrêmement prudent. Pourquoi la France ne veut-elle pas montrer qu'elle a agi aux côtés d'une coalition justement défensive ?
Je crois que dans la répartition des rôles des Occidentaux, si on peut appeler ça comme ça, la France est le pays qui s'efforce de garder le maximum de contacts pour l'après avec la plupart des partenaires, si vous voulez. Et alors que les États-Unis ont pu compter sur l'Angleterre, qui est la traditionnelle relation spéciale entre les deux pays, vous avez eu des avions britanniques, ils ont une base à Chypre, à Akrotiri, qui est son chevjoint. Nous avons aussi des bases à Abu Dhabi, justement, qui est fragilisé. On a une base en Jordanie, on en a aussi dans la partie kurde de la Syrie, qui est dirigée par les autonomistes syriens. Et donc, on a officiellement attaqué des avions qui risquaient de menacer les positions françaises.
Je ne suis pas sûr. Officieusement, nous avons prêté main forte véritablement à Israël pour son intégrité territoriale.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est très important par rapport à la situation d'Israël, puisque juste avant, Bibi Netanyahou se faisait remonter les bretelles par tous ses alliés.
Alors justement, que va-t-il se passer ? Parce que c'était quand même une forme d'isolation. Enfin, il était isolé sur la scène internationale.
D'une certaine façon, l'Iran a permis à Netanyahou d'apparaître comme le chef d'État d'un pays victime, alors qu'il apparaissait dans l'opinion mondiale de plus en plus comme un chef d'État qui organisait l'hécatombe des Palestiniens à Gaza.
À l'instant, Jules Keppel, le président français Emmanuel Macron affirme que nous allons tout faire pour éviter l'embrasement au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire, nous allons tout faire ? Quelle est aujourd'hui encore l'influence, justement, de l'Occident, France, mais aussi États-Unis ? On a vu que sur Gaza, elle était très, très modérée, voire minime.
Oui, parce que Netanyahou sait parfaitement, il est lui-même à moitié américain, si je puis dire, donc il connaît parfaitement les États-Unis. Et que la campagne électorale américaine, bien sûr, réduit considérablement les moyens du locataire de la Maison-Blanche, surtout s'il est candidat à sa réélection, comme c'est le cas de Joe Biden, puisqu'il faut faire attention à toutes les composantes de son électorat. Si Biden aide trop Israël, il perd la partie gauche de l'électorat, la jeunesse qui a manifesté dans les universités à Harvard, des Arabes américains qui sont très influents dans le swing state du Michigan, etc. Mais s'il va trop de leur côté, les Juifs américains risquent de dire qu'ils ne défendent pas Israël et ils votent majoritairement pour Biden. Et vous avez vu, du reste, le Trump qui a déclaré pendant le week-end « Si ça avait été moi, ça ne serait jamais produit, j'aurais détruit l'Iran tout seul, etc. » Bon, simplement, l'un a fait, l'autre déblatère. Et là, il y a quand même une différence. Il y a un point pour Biden, certainement, dans cela. Mais c'est pourquoi il dit, ensuite, parce qu'il pense à l'autre partie de l'électorat, stop, vous n'allez pas taper sur l'Iran.
Pour conclure, Jules Keppel, dans tout ce qui est en train de se passer, dans toute cette tectonique géopolitique des plaques, quelles conséquences sur les populations palestiniennes à Gaza et cette guerre qui est en train d'être menée ?
Eh bien, les malheureux ont été rétrogradés, si vous voulez, dans l'attention mondiale. Et bien sûr, avec un État d'Israël qui apparaît comme victimisé, avec une sorte de blanc-seing donné pour infliger des pertes importantes au Hezbollah, bien évidemment, les Palestiniens se retrouvent, une fois de plus, un peu les oubliés de l'histoire. Et bien sûr, ça, c'est aussi un élément très important, parce que, quel que soit ce que M. Netanyahou peut faire pour sa survie politique ou autre, sans solution pour un État palestinien, on ne va pas aller bien loin. Et c'est pour ça aussi que, d'une certaine manière, les États sunnites richissimes, qui sont les seuls à pouvoir financer cet État palestinien, voient sans déplaisir l'affaiblissement de l'Iran. Parce que si les Saoudiens et les Émiratis doivent mettre de l'argent dans un État palestinien qui serait à Gaza ou ailleurs, ils ne veulent surtout pas qu'il y ait les mains iraniennes ou ses mandataires qui contrôlent les choses sur place.
Le Proche-Orient, Moyen-Orient, compliqué, mais plus facilement compréhensible, si je peux dire ce matin, grâce à vous, Gilles Kepel. Merci beaucoup, c'était votre grande interview. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Holocauste, au pluriel, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident, aux éditions Plon. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.
Merci de votre invitation.
Merci Gilles Kepel, merci Sonia Mabon.